Dans Guadeloupe,
le kit marseillais d'autodéfense politique.
Putain, Dolce Vita.
C'est le moment.
Capil honorable.
C'est le moment de faire le boucan.
Aïdara.
À toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Boucan sur Radio Galère 88.4. On est avec vous pour la première fois sur les ondes et on se retrouvera tous les deuxièmes mardis du mois entre midi et 13h. Boucan, c'est une émission consacrée aux luttes et on va parler pour notre première émission du mal logement à Marseille.
Aujourd'hui
pour soutenir le mouvement du collectif du 5 novembre et parce que des amis sont concernés par les effondrements, qui vivaient en face des immeubles, qui se sont fait déloger, que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'aider des personnes qui se faisaient déloger en urgence, enfin carrément expulsées, en très peu de temps, que j'avoue moi-même aussi je vis dans un appartement qui est insalubre et enfin que je considère en tout cas insalubre et que les propriétaires ne font rien et parce que c'est inadmissible que l'État, les représentants de l'État et de la mairie n'aient rien fait. Ou en tout cas je pense que la réaction n'est pas à la hauteur de ce qui s'est passé le 5 novembre. Et que du coup c'est au moins en hommage aussi aux morts.
Ah, pour râler quoi, pour foutre le bordel un maximum et
Parce que vous avez envie de râler, vous êtes pas content avec Godin.
Non, je suis vraiment pas content, ni avec Godin, ni avec quoi que ce soit d'ailleurs, je suis pas content globalement.
Oh mais à ce moment-là c'est les carottes qu'il faut manger, c'est pas manifester.
Je préfère utiliser du bâton pour rétablir les choses dans l'ordre.
Pourtant Marseille c'est quand même une ville où tout se passe bien, mais on a un maire qui est en place depuis 30 ans, c'est quand même fabuleux d'avoir un système aussi...
Tout le monde est heureux, ouais. La moitié de la ville a pas voté pour lui, mais sinon tout le monde est assez heureux. Ouais.
L'habitat indigne est le produit d'un modèle économique porté par les autorités locales. L'idée que le marché de l'immobilier s'autorégule, qu'il faut laisser faire, comme à Noailles, jusqu'au jour où le bâti est à ce point dévalorisé, effondré, qu'il sera peut-être opportun pour les milieux d'affaires proches du pouvoir local de faire des belles plus-values. La métropole, présidée par Martine Massal, s'inscrit aujourd'hui dans cette continuité avec l'élaboration du plan local d'urbanisme le plus ségrégatif de l'histoire de Marseille. Aucun emplacement réservé pour la construction de logements très sociaux dans les quartiers sud et centraux. C'est pourtant la première réponse à donner aux mal logés. Un logement digne et économiquement accessible. Nous sommes tous les enfants de Marseille. À Noailles, La Plaine, Maison Blanche, Herbe.
Le 9 novembre 2019, les Marseillais manifestaient de nouveau leur colère en descendant dans la rue en commémoration du 5 novembre 2018 où deux immeubles s'étaient effondrés rue d'Aubagne, ensevelissant sous les décombres Chérif, Fabien, Julien, Marie, Niassé, Ouloum, Simona et Taher. L'un des immeubles appartenait à la ville. Les Marseillais montraient ainsi aux acteurs politiques, à la mairie, à l'État, qu'ils n'oubliaient ni ne pardonnaient ces morts tragiques qui auraient pu être évitées. Ils disaient aussi leur colère face au mépris de la mairie dans la gestion de cette crise et à la politique d'expulsion mise en place tout au long de l'année dès lors qu'il y eut des morts.
Les gens ne peuvent pas attendre pour mourir que la question soit à l'ordre du jour, comme vous semblez le vouloir.
En effet, d'après les enquêtes de Mediapart, Mars Actu et Libération, en un an, ce sont bientôt 400 immeubles et plus de 3100 personnes qui ont été évacuées tout au long de l'année dans des conditions déplorables. Pour en parler brièvement ici, les délogés ont été dans la grande majorité expulsés sans les documents légaux qui sont indispensables pour être relogés, indemnisés ou assurés. Ils se sont ainsi retrouvés, dans le meilleur des cas, ballottés de gymnase en hôtel, entassés en périphérie urbaine loin de leur travail, loin des écoles où vont leurs enfants. Ils sont parfois tout simplement mis à la rue, sans possibilité de récupérer leurs affaires au sein de leurs immeubles cadenassés. Et pour comble, certains payent encore leur loyer. Les personnes concernées sont souvent des populations précaires, parfois sans papier, ne parlant pas toujours français, et souvent démunies face à une administration kafkaïenne. Et ces expulsions ne sont pas finies. Comme le rapporte le collectif du 5 novembre, vendredi dernier, le 29 novembre 2019, trois immeubles ont encore été évacués au 12, 12 bis et 14 rue Château-Redon à Noailles par les services municipaux sous la tutelle de l'adjoint au maire, Julien Roisse. Un membre du collectif du 5 novembre a été menacé et violenté par un des agents de la ville et sans l'insistance de voisins, une dame âgée et malade aurait été emmurée dans l'immeuble. Devant les questions des personnes délogées, il a été répondu « Je n'ai pas que ça à foutre, je veux rentrer chez moi, vous nous emmerdez » et de nombreuses contre-informations comme « Chacun n'a droit qu'à une seule valise » ou « Les propriétaires occupants doivent se démerder tout seuls pour leur relogement, la ville ne les prend pas en charge. »
Commissaire, si vous voulez me parler, gardez votre calme et employez
un
autre
temps. J'ai un ordre signé du maire et j'ai le devoir de le faire appliquer. Ces immeubles sont dangereux et peuvent s'écrouler d'un moment à l'autre.
Commissaire, je suis architecte. Ces maisons sont lézardées comme 40% des vieilles maisons de Naples. Il n'y a pas de danger immédiat. On prétend qu'il y en a parce que ça arrange certaines personnes.
Et effectivement, cela arrange certaines personnes. Car si ces logements sont insalubres et menacés de péril, cela fait des années que c'est le cas et que ces immeubles étaient connus des services publics. Il est donc bien pratique de se cacher aujourd'hui derrière l'urgence d'une situation pour vider le centre-ville de ses habitants indésirables sous couvert de les protéger. C'est ce que confirme le rapport du Haut Comité au logement pour les personnes défavorisées, qui donne un coup de projecteur et alerte les pouvoirs publics sur les conditions d'habitat des personnes pauvres. Or, d'après son rapport sur la gestion de la crise marseillaise, les effondrements rue d'Aubagne ne relèvent pas de faits divers accidentels et imprévisibles. Ils résultent d'une continuité de dysfonctionnement des acteurs publics. Ils pointent notamment l'absence du traitement de l'habitat indigne jusqu'à la gestion chaotique de la crise. Il est précisé qu'avant les effondrements de la rue d'Aubagne, pas moins de 1400 signalements d'habitat indigne étaient restés sans réponse. Le rapport montre donc clairement la responsabilité de la mairie dans la crise marseillaise, mais également celle de l'État, qui aurait pu réagir, mais qui a laissé faire. Les services de la préfecture connaissaient le nombre de signalements effectués pour cause d'insalubrité ou de péril, et auraient pu comparer avec le nombre dérisoire d'arrêtés effectivement pris.
Ce qui est arrivé n'est pas un fait isolé. Les morts d'hier et ceux qui les ont précédés sont les victimes de la spéculation éhontée qui transforme impunément le visage de notre ville.
Et c'est aussi ce que pense le Haut Comité, d'après qui la crise trouve notamment ses origines dans le manque de volonté politique des élus de construire du logement social pour les ménages n'ayant pas les moyens d'accéder à des logements dignes du parc privé. Et d'ailleurs, Godin ne s'en cache pas. En 2001, il déclare à la Tribune « Le centre a été envahi par la population étrangère. Les Marseillais sont partis. Moi, je rénove, je lutte contre les marchands de sommeil et je fais revenir les habitants qui paient des impôts. » Claude Valette, adjoint au maire délégué à l'urbanisme, ajoute dans le Figaro en 2003 « Il faut nous débarrasser de la moitié des habitants de la ville. Le cœur de la ville mérite autre chose. »
La loi a établi un plan d'aménagement, mais vous vous en foutez. La loi interdit de faire tout ce qui peut nuire à la population et vous enlever aux gens leur maison et leur travail, sans vous occuper de ce qu'ils deviendront. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne les relogera pas dans des immeubles comme celui-ci.
Je ne suis pas un philanthrope.
Ça, je le crois volontiers, mais on ne voit pas ce qui pourrait vous arrêter. La catastrophe a fait deux morts et un pauvre gosse a perdu ses jambes, mais ça ne fait rien. Si vous pouvez vous remplir les poches, c'est tout ce qui vous intéresse. Voilà quel est votre système. Et c'est contre votre système que je me bats. Ce n'est pas contre vos maisons. Il me suffit que les immeubles soient construits où et comme le veut la loi, et non pas où et comme vous la voulez.
Nous avons fait une gaffe. Cette affaire est très fâcheuse pour le bureau, aussi bien que pour nous tous, le parti et tout le projet en cours. On est en période préélectorale, ne l'oublions pas.
Eh bien oui, monsieur Godin, vous avez fait une gaffe monumentale, celle de croire que vous pouviez jouer au Monopoly avec Marseille et ses habitants sans qu'ils n'en prennent conscience et ne se soulèvent. Or, s'il a fallu 8 morts et des milliers d'expulsés pour qu'enfin votre politique éclate au grand jour, aujourd'hui les habitants se sont regroupés pour pallier à la défaillance étatique face à cette crise humanitaire. Le cœur de la ville mérite en effet autre chose que cette politique meurtrière que vous menez depuis 25 ans, dont le but principal est de vider les quartiers de leur population pour mieux reconstruire ensuite des logements neufs, inaccessibles aux anciens habitants. Marseille a besoin avant toute chose d'un plan extraordinaire de lutte contre le mal-logement, pour rénover les écoles, pour l'accès aux services publics contre la ségrégation urbaine, qui mobilise tous les niveaux de l'État pour remettre cette ville dans un état enfin digne. Il n'est plus tolérable de regarder, abasourdi, les drames se passer les bras croisés. Alors, à vos pieds de biche, libérons les murs et réquisitionnons les logements vides.
C'est vrai, les règlements sont faits ici. Et il est également vrai que pour le moment, vous êtes encore les plus forts.
C'est heureux que vous le reconnaissiez.
On sera toujours les plus forts.
En profitant du fait que le pouvoir est entre vos mains. Vous ne l'employez pas dans l'intérêt de vos électeurs, ni dans celui de l'ensemble des habitants.
Dans l'intérêt de qui, alors?
Les milliards de lire, les milliards de lire de la subvention spéciale pour la ville. L'argent de nous autres contribuables et citoyens servent uniquement à vous remplir les poches sous le couvert de la loi. À vous remplir les poches grâce aux arrêtés que vous faites prendre par le conseil municipal. Mais cet état de choses va bientôt changer. On sait bien que dans une société où les choses sont en train de changer, il y a toujours quelqu'un qui essaie de rafler tout ce qui est possible. De rafler tout ce qui est possible, sans s'occuper des besoins les plus légitimes et les plus urgents de la population. Et je ne parle pas seulement de ceux qui vivent dans les taudis, dont on se souvient, de ceux qui vivent dans des taudis dont on ne se souvient que lorsqu'on a intérêt à s'en souvenir. Ceux qui sont aujourd'hui vos sujets sont en train de prendre conscience, pleine conscience, de leurs droits de citoyens. Et vous le savez, c'est pour ça que vous luttez. Avec la loi ou sans la loi, par la corruption et par la force.
Vous êtes toujours à l'écoute de Boucan sur Radio Galère et on est de retour en plateau avec deux invités pour continuer à parler de mal logement et de lutte à Marseille. Deux invités du collectif 5 novembre, nous avons donc Hélène.
Bonjour. Bonjour.
Et nous avons Anissa.
Bonjour.
Voilà, donc nous avons eu envie de vous inviter pour parler dans un premier temps de ce qui s'était passé pour vous, pour toi en l'occurrence aussi, Anissa, sur comment tu as été touchée par la politique de la ville sur les expulsions suite aux effondrements de la rue d'Aubagne au mois de novembre dernier. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter, planter le décor?
Oui, alors du coup moi j'ai été évacuée mi-novembre 2018. Donc il y a déjà plus d'un an maintenant. Effectivement, j'ai tout de suite été confrontée au service de la ville parce qu'il y a les pompiers qui sont passés dans mon immeuble suite à l'effondrement du toit, en fait. Et du coup, quand ils nous ont délogés, entre guillemets, c'est pas eux qui ont pris la décision, c'est des personnes de la ville qui sont venues sur place pour établir en quelques minutes un diagnostic assez rapide et nous demander de prendre nos affaires. À ce moment-là, on a eu 20 minutes pour prendre nos affaires, donc ça nous a été dit tout simplement, prenez vos affaires, vous avez 20 minutes pour redescendre en bas. Il y avait un monsieur qui faisait un petit peu de rétention parce qu'il voulait pas partir. C'était une personne âgée, enfin voilà, il avait plein de questions, on lui a pas forcément répondu, on l'a pas rassuré, on lui a juste demandé de partir.
OK. Et suite à ça, vous êtes parti, vous êtes retrouvé où? Comment ça s'est passé un petit peu?
Alors, arrivé en bas, ce moment-là, j'ai commencé à poser des questions assez concrètes sur qu'est-ce qu'on fait maintenant directement au monsieur de la ville, qui voulait pas me donner son nom, du coup, et qui m'a demandé de l'appeler le monsieur de la ville. Donc, le monsieur de la ville m'a répondu que j'avais le choix entre attendre pour savoir si je pouvais avoir un hôtel, sachant que c'était un dimanche soir, il devait être 18h, 19h, il pleuvait dehors à ce moment-là. Donc soit avoir un hôtel je ne sais où, toujours aussi rassurant, et ou soit de me débrouiller par mes propres moyens. Moi, dans un premier temps, j'ai pu me débrouiller par mes propres moyens en allant chez des amis, mais ça n'a pas été le cas de tous mes voisins, qui eux, par exemple, ont pris du coup un hôtel, mais... ils ont été un petit peu dispatchés dans tout Marseille.
Et t'as pu les revoir par la suite?
Alors du coup, quelques semaines après, parce que sur le coup, ils nous ont dit, vous inquiétez pas, il y en a pour 2 semaines. D'ici 2 semaines, vous êtes chez vous. On a tous pris quelques affaires, hein, vraiment pas beaucoup d'affaires, sachant que cette information-là, des deux semaines, on l'avait pas tout de suite. Nous, sur le coup, on a pensé quelques jours, en fait. Au bout de deux semaines, j'ai vu que ça s'améliorait pas, trois semaines non plus. Je voyais que j'étais pas du tout la seule dans cette situation-là. À ce moment-là, on était à environ 1000. Voilà, donc du coup, ça faisait pas mal de monde. Et pas mal de monde pour me rendre compte que j'étais vraiment dans une situation qui était pas prête de s'améliorer. Aucune réponse aussi quand j'allais à l'EAPE. Je m'y rendais quotidiennement, tous les jours. J'avais aucune information, rien de concret non plus sur ce qui allait se passer. Donc oui, très, très rapidement, on a compris que la mairie était d'une part dépassée et d'autre part ne mettait pas forcément les moyens en œuvre qu'il aurait fallu pour pouvoir du coup répondre, nous répondre.
Est-ce que tu peux préciser pour les auditeurs, auditrices, que c'est l'EAPE, ce sigle-là? Moi, je ne m'en souviens pas en fait, mais c'est en gros juste... Dans les grandes lignes, c'est quoi ce service?
Alors le APE, c'est l'espace d'accueil des personnes évacuées qui a ouvert donc mi-novembre, juste après mon évacuation. Donc du coup, cet endroit, il est censé recevoir donc les personnes évacuées dans un premier temps, traiter du coup les demandes d'hôtel, parce que sur le coup, quand vous êtes évacué, vous êtes dans un hôtel, on vous demande pas dans quel hôtel vous voulez aller en fait. On vous dit que vous allez là-bas. Et si vous pouvez vous y rendre, tant mieux pour vous. Si vous pouvez pas vous y rendre, on a déjà vu des personnes qui étaient dans des situations vulnérables, en fait, à qui on proposait pas de solution pour pouvoir se déplacer à des heures où il y avait pas forcément de bus pour aller à l'autre bout de Marseille. Ça a été mon cas, vulnérable, non, mais en tout cas, je devais à un moment partir dans un hôtel, genre vers 23 heures. On me prévient que j'ai un hôtel à l'Estac, en fait, et que je peux plus rester dans mon hôtel. Donc, à ce moment-là, pour aller à l'Estac, il est 23h, c'est pas possible. Et on est le week-end, et je pète juste un plomb parce que du coup, le APE, donc l'espace qui est censé nous accueillir, ne pourra pas m'accueillir avant le lundi. Donc, ça veut dire que je dois me débrouiller seule pour un week-end. Donc le APE, c'est à la base géré par la mairie, et au vu de la gestion, donc ça a été une demande des collectifs au début, parce qu'il y avait des camions, on devait se rendre dans des camions, c'était n'importe quoi en fait si on était évacué. Il y avait des adresses qui n'avaient pas de camions, forcément, si vous habitez pas à la rue d'Aubagne mais que vous étiez évacué, il y avait aucun endroit. Donc les collectifs ont demandé à ce que des associations prennent le relais en fait, et puissent traiter l'urgence un peu mieux que la mairie, justement, qui à ce moment-là juste sortait des fonctionnaires de leur poste, donc des fonctionnaires qui étaient des postes de bureau, des postes administratifs, qui se retrouvaient face à une population en détresse, parce que du coup, peu importe la précarité dans laquelle vous êtes, du moment que vous vous faites évacuer, on est tous dans la même précarité. On a tous un ou deux sacs sur nous, et peu importe d'où vous venez, les affaires qui sont dans le sac, c'est à peu près les mêmes, quoi, pour tout le monde. Et il nous manque aussi plein de choses. La même chose qui manquerait à tout le monde. Voilà. À partir du mois de janvier, février, il y a les associations Solia et France Horizon qui ont commencé à prendre place à l'EAPE petit à petit. Donc du coup, les fonctionnaires de la mairie se retournaient à leur place habituelle avant l'ouverture de l'EAPE. Et donc ces associations ont pris la place de la mairie et étaient censées gérer tous les soucis, donc France Horizon, les soucis, on va dire, d'urgence, les hôtels, pour simplifier le truc un petit peu, et Solia, qui est un peu plus dans l'accompagnement du relogement temporaire et voire définitif.
Ok. Alors, avant de voir un petit peu aussi le parcours, parce qu'on t'a présenté comme personne du 5 novembre, et donc ta situation s'est trouvée liée à plein d'autres personnes, à des milliers de délogés, on va faire un petit détour par un reportage qu'on a effectué avec un autre collectif, parce que le problème du logement à Marseille, avant d'être délogé, en fait, il y a des soucis de mal-logement. Donc on va passer un extrait d'un entretien qui a été réalisé avec le collectif Maison Blanche, donc, qui est situé dans le 14e arrondissement, et qui fait face depuis un an et depuis une manière plus récente avec un incendie qui a mis des personnes à la rue au mois d'août dernier. Voilà, c'est le récit de la lutte qui est menée là-bas par le collectif Maison Blanche.
Il était environ 10h30, 11h. Il y a eu un incendie qui s'est déclaré à la Maison Blanche, au 4e étage à droite, je veux dire. Cet incendie a fait que du coup, tous les habitants de ce bloc étaient évacués, ils n'avaient plus de logement. Le feu est monté jusqu'au 12e étage. Et du coup, c'est nous le collectif qui avons fait tout ce qui est démarche et tout, suivre les familles, les recenser, les suivre et tout, faire en sorte qu'ils ne soient pas trop paniqués, quoi, en gros.
Il y a eu l'évacuation qui a été faite par les jeunes du quartier et surtout par les jeunes du collectif Maison Blanche. Les familles se sont retrouvées dehors sans aucune orientation. Donc on a vu une certaine mère du 13-14, parce que je vous le dis certaine, parce qu'elle nous a servi strictement à rien du tout, qui était là, qui disait oui, ben on va se démerder, vous allez avoir un gymnase, ne vous inquiétez pas et tout, tenez des madeleines et de l'eau chaude. Et on tient vraiment à le préciser, parce que le 23 août, voilà, vous savez comme moi que c'était en plein été, qu'à Marseille, bref. Et du coup, le collectif s'est chargé de faire un recensement aussi à part. Notre recensement, nous, a servi à tout ce qui est service du CCAS. Ils sont basés, en fait, sur notre recensement, nous, les pauvres. Et ils voulaient prendre des familles en otage dans un gymnase. Tout ce qu'on s'est chargé, de faire tout ce que le CCAS, tout ce qui est service social, puis-je dire, pourrait faire. Donc, il y a l'entretien psychologique au départ. Il y a la nutrition. Il y a les déplacements, tout ce qui est transport et tout. Parce que ce jour-là, on a eu tout ce qui est service du CCAS qui nous disait soit ils vont dans le gymnase, ils vont manger et on leur trouvera des hôtels d'ici minuit, ou sinon ils vont pas dans le gymnase mais ils mangeront pas. Et nous, on pensait que l'humain n'était pas con et l'humain ne devait pas être traité comme pire que les animaux, parce que les animaux, ils sont nourris, vous savez, à la SPA. Et ça s'est produit, c'était réel. À 18h, on a réclamé les repas, ils nous ont dit non. Voilà, on les a ramenés dans les hôtels, comme vous l'avez souhaité, mais on ne les nourrit pas. Et de là, ben, le collectif Maison Blanche, vu qu'on menait des actions sur le site, sur le quartier depuis bien longtemps, et vu que ces familles-là ont entièrement confiance en nous, on s'est chargé de les nourrir, de les accompagner, de les accueillir sur le quartier le lendemain, de leur expliquer comment on allait faire les choses, et pourquoi on comptait sur aucun élu marseillais, parce que la majorité c'est tous les mêmes. Sauf, puis-je dire, Samia Gadi, même si je suis un partisan et des personnes le savent très bien, c'est pour ça que les choses marchent. D'ailleurs, c'est comme ça pour moi que les choses doivent marcher. Elle, on ne lui a pas demandé de l'aide, elle a fait. C'est pas pareil, c'est vraiment différent. Elle a fait, elle nous a appelé, voilà, j'ai fait ça, ça et ça, et ça s'est confirmé. Par contre, les autres qui sont venus, oui, moi je peux faire ci, ça, ça, tout comme Camar, Sophie Camar, qui est venue, qui nous a pris en photo, qui a expliqué dans son Facebook en disant on les soutient lorsque c'est des choses fausses. Voilà, c'est ça les élus marseillais en fait. De base, ils font tout ça, ils prennent des photos, ils disent on les soutient, mais ils ne soutiennent pas du tout. Pour tout le reste, ça a été nous et la préfecture. Donc tout ce qui est réunion, entretien, dossier, transport scolaire ou déplacement, nutrition, tout ce truc-là, ça a été nous, les guerres avec les propriétaires, cet accompagnement-là, on l'a créé nous. Et nous, on s'est retrouvés dans ce truc de, voilà, vous êtes des citoyens de seconde zone, comme on le dit, et démerdez-vous, restez entre vous. De toute façon, votre quartier, il est privé, c'est une copropriété privée, et l'État n'a rien à faire là. C'est ce qu'ils nous disaient, eux. On a rendu vraiment un hommage. D'ailleurs, la page Facebook, c'est Hommage à Marie. On lui a fait cet hommage-là et depuis ce jour-là, on s'est promis que ce quartier, on va essayer de changer. Tout comme on l'a dit haut et fort, on a dit cette petite, elle n'est pas tombée pour rien parce que dorénavant, on ne les lâchera pas. Et d'où le changement qu'il y a eu, au moins niveau sécurisation et les attaques qu'il y a eu envers les propriétaires pour qu'ils réparent un peu leur logement.
Et du coup, est-ce que vous faites face à ces catastrophes, accidents qui n'arrivent pas de nulle part, en fait, ce que vous êtes en train de dire, quoi. C'est pas juste des accidents, c'est des choses qui ont vraiment des responsabilités. Vous, face à ça, qu'est-ce que vous faites un petit peu les actions du collectif? C'est quoi au quotidien ce que vous faites au collectif Maison Blanche?
Tout dépend de l'ampleur. Ouais. Le 18 septembre, c'était pour 4 mères de famille et une fillette qui se sont fait faucher avec un véhicule. Donc là, c'était extrêmement grave. On s'est dit, allez, vas-y, on bloque la route. Ils vont nous rayer de leur GPS, on bloque la route. On a bloqué. Les policiers sont venus avec les gazeuses et tout. On les a refroidis parce qu'on avait mis l'équipe de M. Mélenchon. On avait mis Sébastien Delogu devant eux. On a dit, on lâchera pas. Ce que vous comprenez pas, c'est qu'on lâchera pas et tout. Et pendant 3 jours, on a bloqué. En l'honneur de ces mères de famille-là, Dieu merci, il n'y a eu aucun mort. on n'a pas lâché, ça a marché. Aujourd'hui, on s'est retrouvé face aux flammes. Heureusement, il n'y a eu aucun décès. Du coup, on s'est dit, c'est extrêmement grave aussi, mais à quoi bon sert de bloquer des routes alors que ça concerne des logements? Donc on va s'en prendre à ceux qui doivent débloquer des logements. Et ça, c'est l'État. Et l'État, du moment où les pompiers s'actionnent, viennent sur une intervention et envoient le jet d'eau pour éteindre une flamme, ils sont responsables. Ils ont la responsabilité des personnes qui vont déloger. Donc automatiquement, on va s'en prendre à eux. Et oui, on s'en est pris à eux d'une manière forte dans tout ce qui est... on les salit. En fait, on les salit, on est parti jusqu'à se mettre en direct à la télé. On les a bien, bien, bien salis comme il fallait. Et on est très fiers de nous, de ce qu'on a pu faire. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ben, les familles, on les appelle, tenez, une visite d'appartement, visite d'appartement. Et on n'oubliera jamais la phrase de M. Padovani qui a dit « Brûlez vos balcons, vous aurez des logements sociaux. » Comme si les gens avaient décidé de brûler leur balcon. Le feu n'aurait pris qu'au quatrième étage. Eh ben, je vous assure que les autres personnes seraient restées chez eux. Et là, il a pris sur tous les autres balcons, ils n'ont rien demandé.
La situation de relogement, il y a beaucoup de familles qui ont été relogées, il y a des familles à l'hôtel, est-ce qu'il y a une prise en charge ? Où ça en est un petit peu votre combat au niveau du relogement?
Alors là, il y a une famille qui a eu les clés de son appartement. Pour toutes les autres, on leur a proposé des appartements merdiques. Ils les ont refusés. Il y a d'autres propositions parce qu'ils sont dans l'obligation de le faire. On sait que niveau hôtel, c'est les propriétaires qui vont régler la facture à la fin parce que la mairie et la préfecture vont se retourner contre eux. CAS a cessé de donner des tickets resto. Enfin, ils n'ont pas donné de tickets resto, c'était des tickets service à 10 euros. Même les tickets de bus, ils ne les donnent même plus. Il n'y a plus rien, genre. Donc, on essaie de se charger de ça comme on peut. Et heureusement, on a des camarades aussi. Je ne sais pas si je peux citer vos noms, mais on a des camarades qui sont venus pour faire du soutien psychologique et pour aider ces familles-là. On a des médecins aussi.
Justement, pour parler un peu du soutien, pour parler un peu de Marseille en général, est-ce qu'il y a des liens avec d'autres collectifs?
Je veux parler d'une grande figure qui a... D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à M. Kamel Guémari, McDo, Saint-Barthélemy. Kamel est venu nous soutenir au départ. C'est pour ça que je suis obligé de parler de lui. Il mène une lutte pour les travailleurs et pour les personnes comme nous, qu'on stigmatise, qu'on met certaines identités sur... sur notre CV et que ça passe pas. On a le soutien avec le collectif 5 novembre. Le collectif 5 novembre, on a le soutien avec eux, mais j'aimerais vraiment être clair avec ce collectif. C'est que le 5 novembre, le jour des effondrements, c'est moi, Abdallah Nahir, Abdou Ben Abdou qui est du collectif, et Karim qui est premier sur le site, sur les lieux. Et ce collectif-là, en fait, il est parti de nous. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il est parti de nous, ça nous avait touché, affecté, parce qu'on vit dans ces bidonvilles, on y vit. Et Karim qui a lancé les premières manifs, tout ça, après il y a eu le lien aussi avec Kevin, avec Kauter Ben Mohamed, avec Marie Bartou. Voilà, moi j'étais avec eux, de base. Jusqu'à, bon, dans l'avancée, il y a eu Kauter qui a créé son association aussi sur la Joliette. Il y a eu le collectif 5 novembre qui s'est créé et force oblige, je reviens sur mes terres à moi, sur Maison Blanche, et je suis collectif Maison Blanche, je ne pouvais pas trop rester avec eux. Mais oui, on a ce lien-là. On a mené des manifestations avec eux, on a fait des guerres avec eux, et c'est ce qui a expliqué le jour où il y a eu l'incendie, pourquoi le collectif 5 novembre s'est déplacé sur Maison Blanche. Il y a aussi plein d'autres collectifs, tels que celui d'Herbel, tels que le petit séminaire. Il y a le petit bar de Montpellier, il y a l'équipe de Plandao, donc Soraya Gendouz Arab, il y a Mohamed Ben Saada, il y a tout ce monde-là, donc le SQPM aussi avec Yazid, Karima Berich, sa sœur Didouche, syndicat des quartiers populaires de Marseille. Il y a tout ce monde-là qui s'est retrouvé dans excusez-moi du terme, mais merde, on est citoyens, on les a élus à ces personnes-là, ils ne font pas leur travail. Alors ben, on va se souder entre nous, on va essayer de faire un truc où on ramène tout Marseille, tout un peu tous les quartiers, un peu les gilets jaunes, un peu ceux du SQPM, un peu ça, de partout. On va descendre sur le Vieux-Port et on va bloquer.
Là tu parles du 7 septembre, non? De la manif où vous êtes descendu de... le jour où vous êtes descendu.
Il y avait ça aussi, oui. Il y a eu cette convergence qu'on est parti de la Maison Blanche. On a fait quasi tous les quartiers pour descendre jusqu'en ville. Même pas mal, hein. Donc si on sait jamais si monsieur le maire il écoute, même pas mal aux jambes. Hein. On marchait, on est parti jusqu'au Vieux-Port. C'était trop beau à voir, hein. On a eu une belle convergence avec les Gilets jaunes. Et puis pareil, un petit clin d'œil à la MDP, à la Maison du Peuple. On s'est tous retrouvés là-bas et c'était énorme. C'était énorme de voir qu'en fait on vit tous la même chose. Et tout ce qui est gilets jaunes, qu'ils ont été lynchés par les médias, à qui on a fait passer pour des casseurs et tout, je suis désolé, on est tous gilets jaunes dès la naissance, hein, dans nos quartiers. Du moment où on lutte pour une cause, nous sommes gilets jaunes, avant d'être collectifs.
سيد المير قول لي انا كي ندير الباطي ما طاحت وانت الاخبر خويا قودا وانا كي ندير قشي راه مشتت والقطره اكثر
L'un des quartiers les plus populaires de Marseille, Noailles. Touché en plein cœur de la ville. Un grand boom suivi d'un grand vide. 5 novembre 2018. Après des jours depuis quelques secondes suffisent. 8 étoiles se sont éteintes dans ma ville. L'incompréhension s'empare de nos vies. Marchands de sommeil, la mairie nous détruise. Intouchable est la cible, c'est inadmissible. C'était mon père, ma mère ou mon ami. L'injustice malgré toutes nos manifs. On expulse les habitants, attire l'arigot. Ils ne sont même pas pris en charge à tous les niveaux. Marseille est en colère, on nous prend de haut. On est pris pour du bétail, parqués comme des veaux.
C'est de l'mirgoulienekindir. Al-Bati ma tahat ou n'te l'akhbar. Khouya goudin ou n'akindir. عشيرها مشتت والقطرة اكتر سيد المير قول لي انا كي ندير الباطي ما طاحت وانت اللي اخبر خويا قودا وانا كي ندير عشيرها مشتت والقطرة اكتر سيد المير قول لي انا كي ندير الباطي ما طاحت وانت اللي اخبر خويا قودا وانا كي ندير قشي راه مشتت والقطره اكثر سيد المير قول لي انا كي ندير الباطي ما طاحت وانت اللي اخبر خويا قودا وانا كي ندير قشي راه مشتت والقطره اكثر سيد المير قول لي الباطي ما طاحت وانت اللي اخبر خويا قودا وينك قشي راه مشتت والقطره اكثر
Et du coup, on est toujours avec des membres du collectif du 5 novembre, donc avec Hélène et Anissa. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait face à la situation des expulsions et nous dire comment vous vous êtes rencontrés aussi ?
Alors, il y a eu plusieurs stratégies qui ont été mises en place. Ça a beaucoup évolué, en fait, tout au long de l'année. Au début, quand on s'est rencontré avec Anissa, c'était justement à l'EAPE, l'espace d'accueil des personnes évacuées, à la veille de Noël, pour justement exiger que les personnes soient relogées dans des hôtels adaptés à leur situation. On avait toute une série de personnes qui soit étaient très malades, en situation de diabète, une maman enceinte avec plusieurs enfants, etc. Et donc on est allé à Beauvau pour exiger tout ça, et on nous a répondu oui, pas de souci, et bien sûr, comme d'habitude, hein, ça s'est reproduit tout au long de l'année. Le jour même, on nous a dit finalement ce sera lundi, quoi, le jour de Noël, enfin la veille, le 24. Et ce jour-là, Anissa, qui était montée en réunion de négo, redescend et la directrice pensait qu'on allait partir gentiment, et en fait elle dit ah non mais tant que vous n'aurez pas appelé un peu plus haut, nous on partira pas d'ici, on restera avec les gens et on obtiendra ce qu'on veut obtenir. Donc ils ont fermé les rideaux en nous demandant gentiment, poliment de partir, et on est resté encore un peu de temps, et on a eu effectivement, je crois qu'elle a appelé devant nous sans avoir de réponse, hein, mais les responsables plus haut placés. Et c'est une des manières pour nous qu'on a continué à avoir, hein, de les pousser juste à prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'on est encore aujourd'hui, ça a été le cas pour Marseille Habitat, hein, dans le cas de la rue Curiol, on est toujours obligé de réinstaurer un rapport de force pour que les droits des délogés soient respectés.
Ouais, c'est vrai que effectivement, cette première action qu'on a menée d'occuper l'espace de l'EAPE, donc fin décembre 2018, c'était vraiment une action qui a été spontanée de notre part en tant que délogés. Moi, je faisais déjà à ce moment-là partie du collectif, mais je n'avais jamais fait partie d'un collectif ni d'un quelconque mouvement social avant ça. Je m'y suis retrouvée, on va dire, par la force des choses, en fait. Et en fait, cette occupation de l'APE, c'est simplement de se dire bon, bah voilà, on va passer les vacances de Noël dans des hôtels simples. Pourquoi on pourrait pas juste déjà avoir des appart-hôtels pour les familles ou les personnes qui ont des problèmes médicaux, qui peuvent pas forcément sortir tous les jours pour manger dehors. Voilà, se taper des kilomètres et dépenser de l'argent tous les jours pour manger, enfin c'est juste pas possible. Donc c'était une solution assez qui nous paraissait assez simple en tant que délogé, qui était aussi assez simple en fait à réaliser, parce qu'avant de faire ça, on a préparé l'action en fait en appelant des hôtels, des appart-hôtels, et en leur demandant s'ils avaient des hôtels disponibles pendant 2 semaines. Voilà, la période de vacances scolaires pour une dizaine de personnes, enfin une dizaine de familles, et ils nous ont répondu que oui. Donc on est arrivé avec une liste en fait d'hôtels qui étaient disponibles, donc des solutions en fait. Et à ce moment-là, comme Hélène l'a bien précisé, on était une trentaine de délogés, et effectivement, donc on leur a demandé d'appeler les hôtels et de réserver pour la période au moins de vacances scolaires que les enfants puissent passer, voilà, un Noël. Un peu plus digne en tout cas que et puis des vacances un peu plus dignes, puisque c'est l'hiver, ils peuvent pas sortir dehors, ils peuvent donc rester dans une chambre de 9 mètres carrés, c'est pas possible. Voilà.
Et du coup, peut-être par rapport aux stratégies que le collectif du 5 novembre met en place, il y a tout alors c'est de l'action collective, hein, mais on a plusieurs commissions. Il y a notamment une série de personnes qui se sont regroupées dans ce qu'on a appelé la commission des délogés urgence, etc., où là elles fournissent un accompagnement à des personnes, hein, on remplit des dossiers, on les accompagne à Beauvau, etc. Il y a une commission juridique aussi, avec toute une série de contacts avec des avocats pour les accompagner. Mais ça, c'est un volet, hein, c'est juste pallier à l'incompétence des institutions. Mais il y en a un deuxième qui a été, à notre avis, hein, central et qu'on ne veut pas lâcher, c'est le volet, bien sûr, politique. Où donc la première forme, bien sûr, c'est la question des manifestations. On a quand même organisé 3 manifestations qui ont été bien suivies, hein, parce que à chaque fois, il y a eu autour de 10 à 20 000 personnes présentes dans les rues. On n'a pas fait que des manifs. Il a fallu faire jouer aussi parfois plutôt sur l'humour. Hein. On a organisé pour dénoncer les marchands de sommeil des élections de Mister élu indigne. Donc ce mode-là plutôt sur le côté un peu satirique, humoristique. C'est aussi pour ça qu'on aime bien le ton de votre émission, parce que ça nous a directement parlé. Donc là, l'idée, c'est d'aller les chercher un peu, hein, de les renvoyer à leurs responsabilités. Et on a effectivement aussi joué la carte médiatique. On l'a beaucoup activée. Et enfin, on a joué sur un volet un peu plus négociation, hein, sur le droit, en négociant une charte du relogement. Qui a été signé en juillet.
Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de cette charte du relogement, rapidement en quelques mots, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui a été mis en place autour de cette charte?
Alors, très rapidement, en fait, après le drame du 5 novembre, sont mis en place des assemblées, en fait, dont les assemblées des délogés, qui ont fait remonter plein de problèmes. Donc, comme je vous ai dit, on n'avait tous pas de réponse, que ce soit au niveau de la mairie, enfin voilà, on avait vraiment, on était dans le flou total. Et par contre, on s'est rendu compte que voilà, il y avait des petits paquets de personnes qui vivaient les mêmes situations, en fait, en plus des situations quotidiennes qu'on rencontrait tous, et qui ont pouvait regrouper ça dans des sortes de problématiques. Et on s'est dit, c'est cool de chercher des problèmes, mais enfin d'exprimer nos problèmes et ce qu'on vit là, mais est-ce qu'il n'y a pas des solutions concrètes qu'on peut apporter? Et là, on a réfléchi aussi tous ensemble. Donc, que ce soit personnes délogées ou pas, les soutiens, des personnes un peu plus professionnelles, je pense à l'Empile, Emmaüs qui nous ont beaucoup soutenus.
Des psys.
Des psys aussi, voilà, aussi un peu. Enfin, il y a eu aussi des avocats, des juristes, enfin. Et tout ce petit monde, on s'est tous réunis en fait, et on a créé la charte du relogement, qui soulève de grosses problématiques donc liées aux évacuations sur Marseille, et qui propose toutes les solutions en fait adéquates pour y répondre.
Donc, c'est quand même un peu une blague, hein. C'est-à-dire que c'est les habitants de Marseille qui font les politiques publiques, sinon personne les prend en charge.
Voilà, c'est ça. En fait, voilà. Si on s'occupait pas.
Elle a été approuvée par la mairie.
Elle n'a pas été approuvée tout de suite, cette charte. Elle a connu son début d'existence, je crois, peut-être au mois de décembre. Hein. Dès le mois de décembre, on a commencé à voir qu'on pouvait rédiger un document, en fait. Et c'est à ce moment-là Kevin va chez d'autres personnes aussi, mais qui s'est dit, si on faisait une charte, j'ai fait ça dans mon passé militant, ça pouvait marcher. Donc c'est toutes les personnes se sont dit que c'était peut-être une des meilleures situations, enfin en tout cas collectivement on s'est tous mis d'accord pour se dire que c'était une des meilleures solutions qu'on pouvait donc la première réunion institutionnelle, puisqu'il y avait des réunions en parallèle toutes les semaines avec les grands élus politiques, les grands de la mairie, quoi. Donc pendant ces réunions-là, tout simplement, nous, on leur expliquait nos problèmes et puis eux, ils nous disaient qu'ils comprenaient. Donc ensuite, on leur apportait des solutions et ils nous disaient que c'était pas possible. Voilà. Donc c'est un petit résumé. Là, je vous le dis en rigolant parce que ça fait un an et que j'ai pris vachement de recul, mais sur le coup, c'était hyper difficile. C'est ce qu'on a appelé de la violence institutionnelle et sociale, en fait. C'est une vraie violence. Franchement, je préfère me prendre des coups. Parce que le coup, une fois que tu te l'es pris, t'as mal à une période et ça va passer. Ça s'amplifie. C'est un traumatisme. De voir qu'en fait, on explique simplement les choses d'une manière et qu'en plus de ça, on apporte des solutions simples qui leur coûteraient moins d'argent, beaucoup moins d'argent. Et qu'en face, on a juste des refus, en fait. Et des fois, j'ai même eu une phrase en disant, mais monsieur, on a alerté pour les repas passer un temps parce qu'ils avaient coupé la cantine, entre guillemets, voilà, Sodexo qui proposait aux délogés. Et à ce moment-là, ils n'ont proposé aucune solution de repli. Donc en fait, pendant 3 mois, il y a des familles qui étaient à l'hôtel, qui ne pouvaient pas se faire à manger, parce qu'à l'hôtel, on ne peut pas se faire à manger. J'ai essayé de ramener des plaques. On m'a demandé de choisir entre les plaques ou l'hôtel. C'est juste pas possible. Les familles, elles avaient... faut un budget, là, comme ça, tout de suite, je vous dirais, pour une famille de 5 personnes, bouffer dehors, c'est une cinquantaine d'euros par jour. Qui peut dépenser 50 euros par jour en plus de tous les frais qu'il y a à côté? Enfin, c'est impossible. Et encore 50 euros, c'est juste en bouffant des kebabs ou des pizzas. Donc pendant 3 mois, les familles sont débrouillées, en fait. Donc là, c'était vraiment la solidarité marseillaise qui s'est activée. Merci à tous les Marseillais qui ont participé à ça. Enfin, il y a tellement de personnes, que ce soit des restaurants associatifs ou des personnes, des inconnus, qui venaient avec des plats, ou simplement qui passaient dans les hôtels, filaient un peu de bouffe. On remercie ces personnes parce que sans elles, il y aurait eu... c'était un drame sur le drame, là. Et donc du coup en réunion institutionnelle, quand on a essayé d'alerter sur ça en disant au second là, je sais plus comment il s'appelle, c'est le second de Godin. Ce monsieur-là qui était lui en tout cas compétent pour pouvoir remettre des repas pour les familles ou en tout cas une solution en place type ticket resto, chèque service, n'importe quoi, m'a dit concrètement que s'ils étaient pas contents, ils pouvaient bouffer au resto et que de toute façon lui c'était pas son problème. Donc et ça on l'a en off, je vous assure que c'est hyper violent.
Tous les négociateurs de la charte disent que ça a été des mois de combat, que ça a été vraiment très très violent. Puis surtout au lendemain de, si on en vient aussi au lendemain de la signature de la charte, le fait, alors on n'était pas trop naïfs sur le fait qu'elle soit vraiment appliquée, Mais quand même, on leur a un peu forcé la main, donc on s'attendait à ce que des choses soient mises en place. Et finalement, bah, la violence institutionnelle, en tout cas là, depuis cet été, on se l'est prise en pleine face, parce que des délogés, il n'y en a pas moins, en fait, contrairement à ce que les gens en pensent. En 6 mois, on est passé de 2000 délogés à aujourd'hui, donc on est... Il n'y a pas vraiment de chiffre officiel, hein, mais on serait sur entre 3000 et 4000 personnes, sachant qu'il y a toute une série de personnes qui ne sont jamais passées par les dispositifs, donc potentiellement plus. Mmh. Et,
parce qu'il y a eu de nouvelles expulsions depuis tout au long de l'année.
Il y a eu 55 immeubles évacués entre juillet et août. Voilà.
Et au lendemain de la signature de la charte, il n'y avait pas un jour où on s'est dit c'est pas possible, en fait. Enfin, c'est de pire en pire. Chaque jour, on apprenait une évacuation. Il y a eu des évacuations énormes, donc à la partie de la fin du mois d'août, entre Maison Blanche, Curiole, là, le boulevard d'Ada, le 14 novembre. Et en fait,
aujourd'hui encore.
Ouais, voilà. La crise, elle est pas. Enfin, si on doit reprendre les mots de notre cher Jean-Claude Gaudin, la crise, elle est pas résorbée du tout. En fait, elle est pas derrière nous. Et le nombre d'évacuations augmente chaque jour, quoi.
Et oui, et cette charte, justement, effectivement, c'était à coup de 2 réunions, 3 réunions institutionnelles par semaine pendant des mois pour pouvoir la refaire accepter et présenter au conseil municipal. Le 17 juin, elle a été signée et apparemment à l'unanimité des élus qui étaient présents au conseil. Donc, du coup, tous les supérieurs possibles et imaginables donc étaient d'accord avec cette charte. Et de suite, dès les premières évacuations de cet été, on nous a dit que la charte, elle n'était pas encore en mesure d'être appliquée, qu'on n'avait pas encore eu les directives justement de RUAS, par exemple, pour faire appliquer cette charte.
On a même eu des travailleurs sociaux qui n'avaient même pas connaissance de la charte. Pour le coup, c'est jamais de la faute des travailleurs sociaux, mais faut le rappeler quand même, ils font ce qu'ils peuvent. Mais on est dans...
Ils devraient avoir été formés à ça.
À Curiole, on a eu quand même un cas où les pompiers arrivent et disent aux personnes « Vous êtes évacués et maintenant, trouvez une solution pour dormir ce soir. » Mais non, en fait, vous avez des droits. Et les droits, on aurait dû leur donner. C'est vous avez le droit d'être logé en hôtel, et si jamais vous ne voulez pas, oui, allez chez des amis. Mais il n'y a pas de transparence sur l'information, donc la charte n'est pas respectée, et les personnes continuent d'être flouées, d'être complètement... Donc c'est difficile aussi pour elles, quand on n'a pas connaissance de ses droits et que les personnes qu'on rencontre après une évacuation ne nous les donnent pas, on se sent, elles se sentent complètement démunies face à la situation, et psychologiquement, ça crée un trauma, quoi.
Et pour faire continuer à faire valoir les droits des personnes délogées ou touchées par le mal logement, est-ce que vous pouvez nous donner une date qui va sortir dans le courant du mois de janvier, et aussi la manière de vous retrouver, s'il y a des assemblées générales, des pages Facebook, des mails, etc. Comment on vous retrouve? Peut-être nous faire part déjà de la mise en demeure. Vous avez construit une mise en demeure de la mairie de Marseille, c'est ça, qui aura lieu en janvier?
Alors,
une grande manifestation. Je crois que c'est le 23 janvier. Alors là, on est en train de regarder sur le téléphone.
Le 25 janvier. Ouais. L'idée, donc ils ont mis en demeure hein, toutes les personnes délogées. On leur a demandé d'évacuer leurs immeubles, etc. Mais en revanche, on est toujours face à des marchands de sommeil qui sont des élus. Hein. On peut le rappeler qu'il y a nos 4 fameux marchands de sommeil qui ont des responsabilités encore aujourd'hui et qui n'ont pas, qui continuent d'occuper ces responsabilités, leur mandat. Donc, si vous voulez, en fait, on pourrait vous proposer de vous lire, Allez-y. Complètement, mais dans les grandes lignes, ce qu'on a écrit. Donc, c'est un arrêté populaire de mise en demeure des pouvoirs publics au titre du droit à un logement digne. Considérant, article 1, que nous étions près de 20 000 à marcher samedi 9 novembre, un an après le drame du 5 novembre. Article 2, qu'une ligne de fracture s'est définitivement ouverte, comme une terre qui a tremblé et s'est ouverte sous le fracas d'immeubles effondrés entre le pouvoir local et les Marseillais. Article 3, que 4000 personnes délogées se sont vues depuis un an remettre une mise en demeure d'évacuer leur lieu de vie sans préavis ni considération.
Article 4, nous mettons en demeure les élus indignes, marchands de sommeil, notoires Thierry Santelli, Xavier Cachard, André Malray et Bernard Jacquier de démissionner immédiatement de leur mandat. Article 5. Nous mettons en demeure le conseil municipal de la ville de Marseille de suspendre de leur délégation Julien Ruas, Arlette Fructus, responsable de la psychose organisée à Marseille. Article 6. Nous mettons en demeure les pouvoirs publics de co-construire avec les collectifs, associations et les habitants, bref, les experts, une politique de choc de dignité. Article 7. Nous mettons en demeure le propriétaire indigne Marseille Habitat et sa présidente Arlette Fructus de retirer sa plainte contre le collectif du 5 novembre.
Nous arrêtons les pouvoirs publics, État, mairie, métropole, devront réagir immédiatement et mettre en place les mesures nécessaires à la sécurisation de cette ville en péril et au respect du droit au logement digne et au droit démocratique. En cas de non-respect de cette mesure de salut public, nous les assignons à un grand procès citoyen du mal-logement
lors d'une grande marche pour l'habitat digne et contre la criminalisation du devoir de solidarité le samedi 25 janvier 2020, métro Notre-Dame-du-Mont.
Et ça. Et bah, bravo. Et maintenant, une petite page de pub.
Dans le cadre de la Biennale d'art contemporain Manifesta, la mairie de Marseille vous invite à participer depuis chez vous à une œuvre collective d'ambition.
Envoyez vos selfies avec la plus grosse fissure de votre appartement à selfie
selfie2les
@gmail.com. La propriétaire de la plus belle photo se verra récompensée d'un an de loyer payé par Monsieur Godin en personne.
Super cool. Godin,
superstar.
Godin,
super cool.
Godin,
superstar.
Godin, super cool.
Et peut-être qu'on voulait ajouter, alors si on veut faire ce procès, c'est notamment parce que le collectif du 5 novembre a lui-même fait l'objet, on a quand même été attaqué par Marseille Habitat. On a un de nos militants qui a été mis en garde à vue et qui a son procès donc, à la fin du mois de janvier. Et rappeler aux gens que c'est quand même pas normal que alors nous on se prenne un procès dans la gueule alors que donc ces élus sont toujours en place et surtout que l'incompétence de la mairie n'a toujours pas elle-même fait l'objet de poursuites
ni d'aucun du coup marchand de sommeil non plus aucun marchand de sommeil en examen depuis un an.
Et peut-être rappeler aussi, parce qu'on parle de la mairie depuis tout à l'heure, mais la métropole a récupéré un certain nombre de compétences sur l'habitat indigne, avec à sa tête Martine Vassal, qui se présente aux élections. Puis on voudrait peut-être lui faire passer un message, c'est notamment celui-ci, hein, c'est que c'est bien facile, mais tout l'argent qui a été évoqué, les fonds qui devaient être débloqués, au mois de janvier, on a très peu de ces fonds-là qui ont été débloqués. Et on a 40 000 logements indignes à Marseille. Et aujourd'hui, il n'y a absolument pas, au-delà des mesures urgentes à prendre pour tout ce qui est mis en péril, on n'a pas de politique structurelle. Vous l'avez bien rappelé en introduction, si on veut résorber la crise de l'habitat indigne à Marseille, il faut aussi augmenter le nombre de logements sociaux et notamment faire en sorte que, quand on voit le quartier de Noailles, il y a seulement 4% de logements sociaux, et ben, que ce soit mieux réparti dans la ville et surtout... À Noailles encore, 80% des personnes sont éligibles au logement très social. On fait quoi de ces personnes-là, en fait ? Donc déjà, il faut penser à l'accès à l'habitat pour ensuite...
Il y a 8% de logements sociaux sur Noailles, aujourd'hui. C'est juste une aberration. C'est un des quartiers les plus pauvres de la ville, voire même les plus pauvres d'Europe. On ne peut pas laisser les bâtiments, en fait, se fissurer, se moisir, se délabrer petit à petit avec des gens dedans. C'est pas possible.
Et peut-être qu'on pourrait... Alors, vous qui habitez au château et au Roucas Blanc, alors déjà, je sais pas, peut-être que vous pourriez appeler vos voisins et demander à ce que vous mobilisiez et que vous interpelliez la mairie pour et la métropole surtout, pour que dans leur plan d'urbanisme, ils prévoient notamment la mise en place de logements sociaux et très sociaux jusqu'au Roucas Blanc.
Bon, on a d'autres idées aussi à leur proposer ou à leur imposer.
Et juste, si on veut... faire valoir nos droits avec vous, vous retrouvez, est-ce qu'il y a une assemblée du collectif à laquelle on peut rejoindre ou vous suivre sur Facebook pour préparer du coup la marche qui aura lieu le 25 janvier, rendez-vous 14h 14h 15h, je ne me souviens pas, mais 14h, métro Notre-Dame-du-Mont.
C'est ça.
Donc,
ce que vous pouvez faire, donc on a un Facebook, collectif du 5 novembre Noailles en colère, il y a également un site. Pour les personnes qui sont concernées par des évacuations et qui veulent... justement nous contacter, il y a un numéro d'urgence, alors là je l'ai pas mais peut-être que
je vais récupérer
voilà. Et au-delà de ça, en fait, juste venez nous retrouver à toutes les réunions qui ont lieu donc chaque semaine le mercredi à partir de 18h30 au Wow. On vous prévient, les réunions elles durent hyper longtemps, mais c'est quand même un cadre sympa. Et pour les personnes nouvelles, on fait en fait une semaine sur deux ce qu'on appelle l'apéro des nouveaux, de 18h à 18h30, où on explique ce qu'est le collectif du 5 novembre, on explique quelle est la situation à Marseille, etc.
Il y a aussi le Molotov le lundi après-midi qui a une permanence du coup pour les personnes délogées. voilà, s'ils veulent avoir des renseignements, enfin un côté pratique, juridique, etc. Donc il y a la permanence des logés, donc pour pouvoir aussi notamment rencontrer des psys si on en a le besoin, et gratuitement bien sûr, et aussi bénéficier de conseils juridiques ou d'un accompagnement en tout cas juridique avec avec des personnes qui ont entre guillemets l'habitude, parce que du coup ça fait un an maintenant que bah, malheureusement qu'on a une expérience de terrain. Il y a un numéro qu'on peut contacter bah, jour et nuit en fait, qui est un numéro qu'on se fait un peu tourner dans le collectif, voilà, qui est le 07 74 18 09 45. Voilà, et qui permet en cas d'évacuation par exemple de pouvoir nous prévenir assez rapidement qu'on puisse être sur
les lieux. Et peut-être juste pour conclure, parce que la crise elle est pas résorbée et que en fait ça va durer encore pendant très très longtemps, il y a plein de choses à faire au collectif au-delà donc de l'affichage, des actions politiques, donc chacun peut s'y retrouver. Il y a des pas actions... que de l'accompagnement, des actions très drôles. Maintenant que le collectif des touristes en colère a rejoint le collectif du 5 novembre, en plus de ça,
il y a un plus grand
ceux plus qui aiment rire peuvent venir au collectif.
Tout à fait. Okay. Ou des talents dans le théâtre. Voilà, on recherche des acteurs, des plombiers, enfin un peu de tout, quoi.
Ok, c'est noté, c'est entendu, on vous retrouvera. Et pour continuer donc l'émission, et vous avez parlé de problèmes de logements sociaux, qu'il en manque énormément. Dès qu'on fait une demande de logement social, on peut aussi demander un recours quand au bout d'un certain nombre de mois, voire d'années, on n'a toujours pas de réponse. Et du coup, une camarade de Boucan a réalisé un petit montage illustrant les galères qu'on peut avoir quand on demande un logement social.
Oui, bonjour, secrétariat du droit au logement opposable.
Pardon ?
Je dis oui, bonjour, secrétariat du droit au logement opposable. Je vous écoute, madame, hein, on a pris votre appel, donc allez-y, il y a beaucoup de demandes.
Alors, non, je vous appelle parce qu'en
attendez, je vous entends pas très bien.
Allô, vous m'entendez ?
Oui. Allô ? Vous m'appelez d'un immeuble un peu... je sais pas... Enfin, arrêtez de bouger, je vous entends très mal.
Ok, pardon, j'arrête de bouger, là, voilà. Oui, madame, je vous appelle parce qu'en fait, j'ai... voilà, ça fait, je sais pas, ça fait 5 ans que j'ai déposé un dossier pour un dossier d'allô et j'ai toujours pas de réponse, en fait.
C'est la première fois que vous appelez ? C'est la première fois que vous appelez, madame ?
Non, c'est pas la première fois que j'appelle, hein. J'appelle à peu près tous les 6 mois et à chaque fois j'ai une personne différente au téléphone.
D'accord, oui, justement, c'est pour ça. Moi, il faut que je revienne sur votre dossier, hein. Donc c'est un petit peu compliqué. Tilalalalou, attendez. J'essaye de vous chercher. Normalement, on a votre identifiant directement, mais c'est vrai que le logiciel n'est pas facile en ce moment. C'est un peu la tête. Ça doit être... il a besoin de vacances, je sais pas. Alors, c'est bon, alors
oui,
allez-y, j'ai retrouvé votre dossier, je vous écoute. Exposez-moi votre situation, puis je vous poserai les questions du questionnaire, hein, pour savoir vérifier si vous êtes bien...
Le questionnaire ? Mais non, mais en fait, j'ai déjà répondu au questionnaire sur Internet.
Oui, mais alors, moi, j'ai pas forcément toutes les informations, hein, donc j'ai besoin de revalider les choses. Tout simplement, on est bien d'accord que vous êtes française ?
Oui.
Vous disposez voilà, d'un droit, d'un titre de séjour. Enfin, vous êtes française, d'accord ?
Non, je suis française.
Vous assurez tout à fait ne pas pouvoir vous loger par vos propres moyens dans un logement décent et indépendant ?
Oui.
Et vous répondez aux conditions de ressources imposées pour un logement social ?
J'ai pas compris la question.
Est-ce que vous répondez aux conditions de ressources imposées pour un logement social ?
Oui, tout à fait.
Voilà. Vous vous trouvez dans une des situations suivantes. Répondez-moi oui ou non. Sans domicile.
Non,
d'accord. Ou demandeur d'un logement social depuis un délai supérieur au délai anormalement long, délai qui varie d'un département à l'autre, hein, je vous le rappelle. Vous êtes dans quel vous cherchez dans quel département ?
Je cherche dans le 93.
Dans le 80, d'accord, donc Île-de-France. Vous savez que les délais sont quand même très importants, hein, dans cette région. Voilà, peut-être qu'éventuellement...
Oui, mais ça fait plus de 5 ans, en fait. Donc, j'estime que le temps est déjà...
Et oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'en Île-de-France, en fait, les délais en Île-de-France, voilà, c'est vrai qu'ils peuvent aller jusqu'à 10 ans. En fait, ça peut aller parfois jusqu'à 6 ans pour des logements, une pièce. Vous recherchez quoi comme type de logement, exactement ?
En fait, j'ai 2 enfants en bas âge. Donc,
donc vous cherchez quoi ? Un 3 pièces ?
On cherche 3 chambres, quoi.
3 chambres, donc un 4 pièces, ouais.
Oui, un T4.
Un T4, voilà. Bon, c'est vrai que, voilà, je ne vous cache pas que les T4, ben, c'est les plus demandés, en fait. Donc c'est sûr que ça surajoute autant demandé de délai, quoi. Bon, écoutez, c'est très bien. J'ai un petit peu ce qu'il me faut. Je vais faire passer votre dossier à ma collègue. Hein. Elle va voir avec vous. Alors, on vous rappellera ultérieurement. Mais en tout cas, votre dossier est bien réexaminé, d'accord ?
Au revoir.
Merci.
Et du coup, pour continuer avec les galères de mal logement, on va vous présenter une situation de deux personnes exilées qui se sont retrouvées en victimes d'un marchand de sommeil qui leur a fait payer 1 800 € pour rentrer dans un appartement. Et ils ont découvert à leurs dépens qu'ils avaient été victimes de cette arnaque après que la propriétaire vienne leur demander de partir et un loyer. Happy.
How was it yesterday? How was it? Were you scared or how was it with the...
We are scared because she's always lamenting, saying that and we must be paying for, her mother is paying for the electricity and the water bill. So we are telling her that somebody came there and collected some amount of money from us last time, said that he is the owner of the place. Do you understand?
Yeah.
So that is why we ask her not to pay until she bring the documents.
Mm.
Do you understand?
Mm.
So that is why we are still scared.
Yeah.
So, but did she bring the documents?
No, she didn't. Just like I came the other time, I complained that somebody gave us that place, we paid the person.
Yeah.
And later another group came telling us that it belongs to them.
Yeah.
So in that situation, I demand for their proof of ownership.
Yeah.
Because we've been a victim of paying to wrong person.
Yeah.
Let me take it that way. Now I don't want such mistake repeat itself again.
Yeah, yeah.
What you want to do about the situation?
Our payment there to be official.
To be official.
Because I'm afraid tomorrow another person may come say it belongs to him or her. I should start paying him. Our worry is that we want to pay to the light source, light owner.
And you're ready to pay anything to the right owner?
If we bargain the price and is acceptable by us,
okay.
Understand?
Mm-hmm.
Then they still have a lot of things we can gain from them. Like if I'm not paying for a house.
C'est une ville bleue. Dans les calanques, on y vient à pied. On ne frappe pas ceux qui vivent là. On jette la clé. On se retrouve ensemble après des années de lutter. Et l'on vient s'asseoir quand il n'a la l'heure. Tout le monde est là à 7h du soir. Quand la rue d'Aubagne s'embrume, les souvenirs de la plaine s'allument. Oh mes vieux pères, où êtes-vous? Gaudin, Vassal, Fructus, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, en lacé roulant le quai, joueur de pipeau jusqu'à la nuit noire. Une autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans 5 ans ou 10. Et nous malheureux, on s'endormira. Mais si Marseille s'éveille, si Marseille demain se lève, attendez-moi. chapier, peuplé de gilets jaunes, de projets d'occupation, de danse en musique, peuplé de cagoules et peuplé de fous. Elle sera derrière à rester debout, que la bonne mère s'embrase, que la préfecture s'effondre. Marseille debout, où êtes-vous? Vincent Boudin, Fructus, on vous aura.
Boucan, c'est du rock'n'roll.
Politique.
Mais c'est joli.
Du rock'n'roll, mais c'est joli.
C'est joli.
On est en présence de Pierre et Vainé, qui font tous les deux partie de différents collectifs, donc du collectif du Mamba et de la Maison du Peuple, et qui sont venus aujourd'hui pour nous raconter un peu les alternatives qu'ils ont trouvées au mal-logement. Donc comme on a vu plus tôt, on a évoqué beaucoup de situations de précarité à Marseille, et ils vont nous parler un peu de leur parcours et qu'est-ce qu'ils ont pu trouver comme alternative. Paula, qu'est-ce que tu veux nous dire, toi, que, un peu ton parcours et où Vainé. Tu en es ?
Bonsoir à tous. Moi, mon parcours, il est simple. J'ai eu une histoire familiale qui était très compliquée. Je me suis retrouvé dans la rue. Et tous les samedis, il y avait les Gilets jaunes qui faisaient une manifestation. Je suis entré dans cette manifestation. Et j'ai retrouvé un collectif, la Maison du Peuple, qui m'ont invité à la Maison du Peuple, qui est au boulevard Baye, qu'on s'est fait expulser le 31 octobre cette année.
Tu les as rencontrés parce que tu dormais à un endroit où les Gilets jaunes se retrouvaient, non ?
Exactement. Je me retrouvais juste en face de les ombrières. Et c'était à 14h le rendez-vous, donc j'y étais tous les jours. Et j'ai rencontré ce collectif, ils m'ont invité à la Maison du Peuple. Donc de là, ça a démarré mon...
Comment et c'est quoi la Maison du Peuple ?
La Maison du Peuple, c'est une maison ouverte à tous avec des ateliers, ils font tout, ateliers cuisine, il y avait des ateliers langue d'arabe, langue de français, pour ceux qui ne pouvaient pas comprendre le français ou quoi. Plus... un repère de convergence où on pouvait se retrouver, faire des réunions et voilà.
Il faut peut-être préciser que donc, c'était un squat, c'est-à-dire que ça a été un immeuble qui a été réquisitionné.
C'était un immeuble qui a été réquisitionné mais qui était fermé depuis un an et qui a été réquisitionné le 1er juin. Et de là... a démarré l'aventure à la Maison du Peuple et que ben, par rapport qu'on s'est fait déloger le 31 octobre, on en cherche une Maison du Peuple numéro 2, j'insiste sur ça, et pour refaire ce qu'on faisait auparavant. Quoi.
D'accord. Et toi, Pierre, est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours et où tu en es aujourd'hui ?
Ben, au fait, moi, mon parcours, je dirais d'abord que c'est dû. Je dirais d'abord c'est dû au manque de. Dû à la responsabilité de l'État en Nemo, parce que des citoyens qui vivraient dans un pays sans pouvoir accès au logement, du coup, ça, c'est un manque de responsabilité à leur part. Je débuterai d'abord. J'étais là en tant que demandeur d'asile, j'étais hébergé pour un début au niveau des 115. Ben, au fait, après ça, j'ai eu des amis qui m'ont hébergé durant un certain moment. Durant cet hébergement, comme j'étais très actif à une association, El Mamba, ben, au fait, à l'aide de leur combat et pour l'accès au logement pour les sans-abri à Nemo. Ben, au fait, j'ai eu maintenant un squat dont je vis actuellement. Ben, c'est ainsi que j'ai eu l'accès au squat.
Et non, juste pour revenir, par le 115, tu es passé par 10 nuits, ça fait tester 10 nuits, c'est ça ? Parce qu'il faut préciser qu'à Marseille, le 115, c'est pas au-delà de 10 nuits, alors je sais pas si c'était le cas pour toi aussi.
Au fait, je connais pas les règlements en ce temps, le fonctionnement des 115 actuels. Mais auparavant, c'est quand tu viens d'arriver, ton premier jour d'enregistrement, c'est que l'accès au 115, c'est un mois. Et après ça, c'est renouvelable durant chaque 10 jours. Ouais, c'est ça.
Ouais, ça tous les 10 jours.
Tout en précisant que le 115, les deux foyers qu'ils ont sur Marseille, ils sont insalubres. À part celui de Forbin, l'abbé Pierre, pas l'abbé Pierre, mais c'est
une
fondation Saint-Jean, il me semble. Mais celui de la Madragueville est insalubre, il est rempli de puces de lit, il est surpeuplé. Et pour avoir le 115, déjà, il faut passer une demi-heure à les avoir. Et voilà, quoi, c'est pas facile à les avoir. À partir de 8 heures, ils nous disent d'appeler, on les appelle, ils nous mettent en attente.
Et peut-être dire en quelques mots. Un peu une des volontés là, du Mamba au niveau de la perme logement, c'est de dire que les squats, en fait, c'est une manière aussi de construire un rapport de force, un levier un peu d'action, de prendre des logements qui sont vides et en fait de pouvoir faire de l'accompagnement des personnes qui y vivent en disant en fait, regardez, on l'a vu avant dans l'émission. Les logements sociaux sont inexistants à Marseille, il y en a très peu. Comme tu le précisais, Vianney, quand tu vas au 115, c'est pour 10 jours et en fait c'est insalubre, etc. Et dire que mettre la pression aussi d'une autre manière, en fait surtout trouver un toit, un endroit où on peut se reposer, etc. Et que c'est stable un moment, mais ça reste aussi de façon précaire et que c'est pas une solution non plus. Vivable, c'est une manière de construire de l'entraide aussi entre nous, quoi.
Ouais. Parce que toi aussi, Vainé, aujourd'hui, tu vis dans une maison qui va être expulsée, qui a un squat qui va être expulsé à un moment, non ?
Exactement. Et d'où d'ailleurs, on a fait pas mal de recherches pour la suite. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que moi, je remercie beaucoup la maison qui m'a accueilli là en ce moment. Mais je dirais aux auditeurs, aux auditrices, que la MDP 2 va revenir en force. Parce que nous sommes là et on restera là. Parce qu'il y a tellement de logements qui ne sont pas bien, fermés depuis des années, et qu'il y a des gens qui vivent dans la galère. Là, ils sont en train de détruire le squat Saint-Just avec tous les demandeurs d'asile. Et que c'est pas normal de les laisser dans la merde avec tous ces logements qu'on a à Marseille vides. Donc la MDP plus toutes les associations à côté, plus tous les collectifs qui sont... Et moi je fais partie de la MDP, je le redis, mais on est tous en soutien l'un vers l'autre. Il faut aider notre prochain. C'est-à-dire que il va y avoir une MDP 2 et il va y avoir un autre hébergement de Saint-Just pour Martine Vassal. Elle le saura très bien.
Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas à qui elle est. Je suis entré comme ça un jour. Il n'y avait personne. Seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis resté longtemps dans cette maison. Personne n'est venu. Mais tous les jours et tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien, c'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois, le matin, je poussais des cris d'animaux. Je gueulais comme un âne de toutes mes forces, et cela me faisait plaisir. Et puis je jouais avec mes pieds, c'est très intelligent les pieds. Ils vous emmènent très loin, quand vous voulez aller très loin. Et puis quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là, ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique, ils dansent. On ne peut pas danser sans eux. Il faut être bête comme l'homme l'est si souvent, pour dire des choses aussi bêtes, que bête comme ses pieds gais comme un pinson.
Le pinson n'est pas gay, il est seulement gay quand il est gay, et triste quand il est triste, ou ni gay ni triste. Est-ce qu'on sait ce qu'est un pinson? D'ailleurs, il ne s'appelle pas réellement comme ça, c'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça.
Pinson, 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 pinson,
pinson,
pinson,
pinson,
pinson, pinson, pinson, pinson.
Comme c'est curieux les noms. Martin, Hugo, Victor de son prénom, Bonaparte, Napoléon de son prénom. Pourquoi comme ça et pas comme ça? Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle Dromadaire. Il a un cheval, caisse et des tiroirs de course. Au loin galope un homme qui n'a que trois prénoms. Il s'appelle Tim, Tam, Tom. Il n'a pas de grand nom. Un peu plus loin encore, il y a n'importe qui. Beaucoup plus loin encore, il y a n'importe quoi. Et puis qu'est-ce que ça peut faire tout ça?
N'importe quoi, n'importe quoi.
Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements. Et tu resteras immobile, nu, debout, avec ta bouche rouge, comme les piments rouges pendus sur le mur blanc. Et puis tu te coucheras, et je me coucherai près de toi. Voilà, dans ma maison qui n'est pas ma maison, tu viendras.
Tu viendras.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio de Boucan sur Radio Galère 88.4. En fait, on pensait terminer l'émission, mais deux personnes se sont introduites dans les locaux de
hello
notre...
Hello Miami. Hello, hello.
Hello, hello, hello.
Salut, salut.
Moi. Bah, je fais la part à la bise à tous parce qu'ils étaient chauds, mais surtout à mon public et que ce soit exo sur vous.
Bon, bonjour, que vous pouvez vous présenter? On ne comprend pas, nous en fait, on pensait finir notre émission. Hein, donc,
bah, oui, parce qu'en fait, comme je vous dis, hello Miami, que ce soit sur vous. C'est le collectif super fameux des touristes en colère depuis le 5 juillet et c'est moi, Brittany Hammerson, je suis la présidente de ce collectif.
Alors, moi, je voudrais faire deux mots hein, sur Brittany. Alors, en deux mots, Brittany Hammerson, elle co-anime avec moi cette émission. Elle est une journaliste merveilleuse et talentueuse de la BBC new-yorkaise, connue dans le monde entier de Marseille. Et elle est aussi fondatrice et chef autodéclarée du collectif des touristes en colère.
Et celle-là là, qui parle, c'est Marguerite. C'est un touriste en colère aussi, c'est surtout mon assistante. C'est une fervente défendrice de discrimination. C'est pour ça que j'ai la love cœur sur elle.
Alors, on va vous proposer, enfin expliquer le principe de l'émission aujourd'hui. C'est une émission spéciale sur le mal logement. Ouais. Alors, le mal logement, on nous a proposé d'interviewer des gens dans la galère. Et du coup, on a appelé ça Radio Galère. Donc, bienvenue sur Radio Galère,
une émission proposée par les touristes en colère.
Bon, on va vous reposer un peu le contexte, le problème. Alors à Marseille, il y a des gens à qui on a donné un nom un peu bizarre, hein, les délogés. Et donc on les appelle comme ça parce que la mairie leur offre gracieusement une chambre d'hôtel.
Ah mais c'est pas parce qu'ils ont mérité, hein. C'est parce qu'en fait, comment on dirait, leur habitement, ils étaient collapsed.
Oui c'est ça, ils se sont effondrés, oui.
Voilà, c'est ça.
Et du coup, aujourd'hui, on a réuni des gens autour de la table hein, pour témoigner du mal logement dans les hôtels.
En fait, les touristes, on dirait, on ressent vraiment plus profond de nous-mêmes dans notre cœur qu'on est les malvenus maintenant à Marseille depuis environ depuis le 5 novembre. Voilà, de l'année dernière en plus. Hein. C'est pas maintenant. Parce qu'en fait, ils ont mis tous les délogés dans nos hôtels. Et maintenant, nous, on n'a plus de croissants le matin. On arrive le matin. Oh, plus de croissants au petit déjeuner, 11h du matin, plus de croissants, fini, diet. OK? Donc, ça, c'est inadmissible.
Donc, nous, ce qu'on se dit avec Brittany, hein, c'est que c'est bien gentil la charité.
Ouais,
mais comme l'a très bien dit notre ami Jean-Claude au conseil municipal en avril dernier, le tourisme, c'est plus important. Et surtout, nous, on pense toujours tout comme Jean-Claude.
Ouais,
c'est qu'on est, je le cite, hein, de tout cœur, solidaire avec ces pauvres gens qui ont subi, comment il a dit, je cite encore, tout ce que nous savons. Mais le plus important, c'est les touristes.
Ah oui, il faut pas oublier quand même que on est là, on participe beaucoup à l'économie de la ville. Et parce que Miami, les touristes aujourd'hui à Marseille, on est même plus sûr d'avoir des chambres d'hôtel. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a lu sur Facebook qu'on pouvait faire du Airbnb ici. On l'a loué et devinez quoi? La dernière fois, mon ami, c'était un ami, c'est Alvarez, c'est un touriste de l'Espagne, il a loué un appartement et on lui dit quoi? il est en péril. My gosh, maintenant, mais les touristes dans des immeubles en péril, ça va plus du tout, my gosh. Il faut vraiment, vraiment faire quelque chose.
Et tu savais qu'il y avait six mois de ça, il y avait 2000 délogés. Aujourd'hui, on est près de 4000. Alors, je sais pas combien de touristes.
Non, mais c'est pas vrai. 4000. Je sais pas d'où tu as ces chiffres, mais attends, je te coupe, je suis obligée. Écoutez, mon assistante, OK? La dernière fois, j'étais en train de dormir tranquillement le matin, il était vers 14-15h, sur un hôtel de la Canebière. C'était début novembre, c'est un samedi, tout ça. J'avais prévu de faire le shopping vers 18h au terrasse et j'étais dérangée. Plein de fous, plein de délogés. Ils étaient au moins 15 000 à 20 000 délogés. Je les ai comptés du haut de l'hôtel. J'étais scandalisée. Tous ces délogés dans les hôtels.
Et tu sais, Britney, que parmi tous ces délogés, enfin, en tout cas, les personnes qui souffrent du mal logement à Marseille, il y a même notre amie Martine Vassal. Elle a déclaré dans Libération qu'elle habitait dans un vieil appartement avec des fissures. Une femme comme Martine.
Nowhere. Mais c'est pour ça, tu sais, ça fait quelques mois, depuis quelques mois, je cherche à bruncher avec Martine pour qu'elle m'écoute sur ces histoires de délogés et surtout pour que on rajoute des jacuzzi et qu'on enlève des délogés dans les hôtels. Et elle ne veut pas me recevoir alors que je croyais qu'on devait bruncher toutes les deux. Mais on devait bruncher chez elle. Mais c'est pour ça, en fait. C'est parce qu'il a des fissures chez elle. Écoute, Martine, spéciale dédicace pour toi, ma chérie Martine. Même si tu as des fissures, nous restons des copines. XOXO sur toi, ma chérie, tu es trop mignonne.
et tu savais que Samia Ghali, elle avait dit que tous ces gens-là, c'était des anarchistes, 15 000 anarchistes dans la rue.
Samia Ghali.
Et Martine avait dit que c'était un groupe d'activistes, un petit groupe, mais 15 000 personnes.
Samia Ghali, c'est l'extrémiste de Kirchner.
Oui, c'est ça.
Ok. J'ai peur. Franchement, j'ai trop peur. C'est vrai. Non, mais par contre, là, il faut vraiment faire quelque chose.
Ouh là là là, attends. Britney, je viens de recevoir une nouvelle. Il y aurait une évacuation en direct.
Une évacuation, il est 19h30. Je ne savais pas quoi faire encore de cette soirée. Parce que vous savez, les amis, écoutez tous les auditeurs et auditrices de mon émission. Le théâtre, it's over, OK? Il faut vraiment, vraiment oublier. Maintenant, aujourd'hui, la nouvelle tendance, Lee, c'est d'aller voir les évacuations qui ont lieu le soir. On s'amuse trop, trop bien. On négocie des choses. On essaye de parler avec des gens qui ne veulent pas parler. C'est plein d'émotions, voilà. Donc, tous les soirs, à partir de 20h, il peut y avoir des évacuations. Et nous, on a un spécial groupe, grâce notamment au collectif du 5 novembre, c'est grâce à eux. Ils organisent des théâtres évacuations où on peut justement parler et voir des vrais délogés. Voilà, en train d'être délogés.
On a rencontré des gens complètement dingues, le collectif du 5 novembre. Il y avait aussi des gens d'un truc bizarre, là, le Mamba. Et puis, il y a aussi encore, je ne sais pas moi, la Ligue des droits de l'homme, enfin, tout plein d'extrémistes de gauche, mais finalement...
Ils sont mal habillés. Hein.
Ils sont très très mal habillés. très très mal habillés, mais finalement... On fait quand même des choses ensemble et ils disent des choses
plutôt sympas.
Ouais.
Moi, je les aime bien parce qu'en plus, ils ont des grands châteaux au Casse Blanc. Ah voilà, ça, ils ne vous le disent pas, mais bon. je ne viens pas n'importe où quand même, je suis Britney Hamilton. Alors voilà, mes chéris. sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces activistes?
C'est juste que maintenant, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on peut peser et puis que même Martine, limite, elle nous écoute. Maintenant qu'on s'est tous alliés avec tous ces anarchistes-là, elle a un peu peur de nous. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut, hein, Martine.
Ouais, d'accord.
C'est notre copine. Mais au moins, en faisant ça, on a quand même réussi quelque chose, j'ai l'impression.
Mais tu sais pas. Tu sais, Martine, c'est la présidente de la métropole.
Oui.
Martine Vassal.
Voilà.
Tu sais, le grand panneau, tout ça, Martine Vassal, c'est elle, c'est ma copine. Et du coup, Martine Vassal, tu es présidente de la métropole, il s'est candidaté pour être le maire de la métropole.
Oui, j'ai entendu ça, merveilleux, merveilleux.
La métropole de Marseille, juste Marseille, être le maire, tout ça. Enfin, je connais pas, vous avez les chaînes, tout ça, comment vous achetez les hôtels de ville ici. Mais du coup, ce qui serait bien, c'est que tu crois que c'est Martine. Il est président de la métropole et en plus maire de Marseille. Enfin, elle va peut-être parler avec les délogés.
C'est sûr, elle va forcément régler leur situation. Parce et nous, enfin, on pourra manger nos croissants tranquilles.
Oui, parce que là, ça fait un an que cette situation, elle dure.
Ça peut plus durer.
Voilà, dans les hôtels, c'est plus possible, Martine. Alors, tu nous enlèves ces délogés, tu les reloges. Voilà, on a des châteaux à te proposer au Casse Blanc. sinon, à part ça, Martine, ça serait super bien si tu pouvais enfin écouter ces espèces d'anarchistes mal habillés. Je t'assure que tu leur apportes un petit verre et ils t'expliqueront ça calmement, la charte du toujours au logement. Il y a plein de solutions pour enlever les délogés des hôtels, ma amie.
Bon, Brittany, on avait des invités là, mais je sais pas ce que t'en dis, on s'en fout un peu hein, de leur témoignage. On a
de
déjà
toute façon,
tout
on n'a pas le temps de l'évacuation. On va rater l'évacuation. Bon, Miami, on va arrêter l'émission de radio. Vous pouvez rentrer chez vous, faire ce que vous avez à faire, tout ça.
Donc, nous, c'est les touristes en colère, on l'a déjà dit, on a un site Facebook,
oui,
hein,
c'est vrai.
Brittany Emerson Collectif du 5 juillet. Et voilà, on... Okay. XOXO Miami,
bisous, bisous.
Touristes en colère, on désertera la Canebière. Plus de jacuzzi et moins de délogés. Martine, Martine, on t'invite.
XOXO Miami.
Ouais.
Logement. Substantif masculin. Action de loger ou de se loger. Le logement concerne une personne. Assurer, donner, offrir le logement à quelqu'un. Le logement est la nourriture. Le logement concerne un certain nombre d'individus, une collectivité. Exemple, le problème, la politique du logement.
Bon, oui, autant le préciser tout de suite, les hommes de la préhistoire n'avaient pas choisi de vivre dans des grottes.
Oh, ouais,
cette
ouais.
image d'Épinal persiste pourtant dans l'esprit des néophytes, et c'est vrai, on voit souvent des gravures comme ça, représentant un homme hirsute, complètement hirsute, sortant d'une grotte à la recherche de nourriture, comme ça. non, je veux dire, en fait, si les préhistoriques n'avaient pas eu domicile dans des grottes, c'est tout simplement que les conditions ne s'y prêtaient pas forcément. toutes les régions ne bénéficiaient pas d'un relief comportant des grottes, des abris sous roche. Parfois, en plus, les grottes étaient déjà occupées par des animaux, comme des ours, par exemple. Et voilà, alors je veux dire, non. Pourquoi ça ? Non, c'est absolument pas... c'est vraiment des images qu'on a dans la tête, comme ça, alors que vraiment, c'est pas du tout... Maison. Substantif féminin, adjectif... Du moyen français maison, de l'ancien français maison, du latin mentionem.
Bah, bercail.
Accusatif de mentio, du verbe manere, rester,
bungalow.
Séjourner.
Bungalow, bicote,
domestique. Château.
Non.
Commerce.
Non. Non.
Descendance.
Pute. Famille. Logique. Non, ferme.
Galetas.
Non,
institut,
sanctuaire,
tu as dit maisonnette,
sanctuaire, non,
mais
trône,
palais,
trône,
palais,
propriété,
palais, séjour, château,
ménage,
non.
Loge, mais toi, c'est naissance,
lieu, gîte,
un foyer,
une ferme,
un pigeonnier,
un chalet, un chez soi, un bungalow,
asile, un clapier,
coque,
couvert, un domicile, cabane, cabane,
foyer, quoi,
intérieur, logement, manoir, nid, propriété. Propriété, c'est ça,
cabane,
manufacture,
un building, trop de lettres,
bercail,
l'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là.
Sanctuaire, dynastie,
l'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La première réussit aisément à la plupart, accepter l'enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde est risquée. Et elle demande une attention, un apprentissage continuel. Chercher et savoir reconnaître qui est quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer. Et le faire durer et lui faire de la place.
Et notre émission Boucan touche à sa fin. Merci à tous les invités et même à ceux qui se sont incrustés. Donc, des touristes en colère, collectif du 5 novembre, Maison du Peuple et merci à tous nos auditeurs.
Puis merci aussi aux personnes à la technique qui nous ont accompagnés. Merci aussi aux hôtes de ces lieux, puisque nous avons décalé le studio, si vous ne l'avez peut-être pas compris, mais nous avons décalé le studio Radio Galère sur les hauteurs du Roucas Blanc.
Au château.
Au château.
Pour les initiés.
Et puis on se voit le mois prochain ou en janvier, deuxième mardi du mois. Et en attendant, passez.
12h à 13h.
Passez une bonne grève et on se revoit bientôt dans la rue. Allez, salut.
Toi, 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 mon tout, mon roi. Toi, toi, mon toi. Toi, toi, mon tout, mon roi.
Hey, salut Tom.
Salut, ça va?
Ouais, mais je cherche à sous-louer mon appart pour quelques mois.
Mais tu connais la sous-location solidaire?
Non, c'est quoi?
Tu
peux aider une personne en situation d'exil et sans garantie qui cherche une chambre ou un appart.
Super idée! J'ai toujours voulu lutter contre les marchands de sommeil.
Mais viens nous retrouver au Mamba, au 8 rue Barbaro, dans le premier.
Aujourd'hui tout me tient, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer.
Le terme boucan, on attendait un petit peu des surprises. Mais en fait, il y en a eu, oui, vraiment à la fin.